Cube Radio. Alexandre Moranville-Ouellette.
Cube Radio.
Incorruptible défenseur de la vérité. Il combat la désinformation, un argument à la fois. Journaliste dévoué, il n'est jamais à court d'arguments. Son pouvoir de persuasion brave tous les sujets de l'actualité. Alexandre Moranville-Ouellet.
Bonjour et bienvenue à Cube Radio. Plusieurs opérations policières ce matin retiennent l'attention. Tout d'abord, une vaste opération des forces policières en ce moment en cours dans Rivière-des-Prairies, Pointe-aux-Trembles. Un grand quadrilatère qui a été dressé entre le boulevard métropolitain, l'avenue Marien, le boulevard Henri-Bourassa et l'avenue Broadway. Tout ça, je l'ai dit, dans le secteur de Pointe-aux-Trembles. On dit que c'est en lien avec des coups de feu. Donc, il y aurait possiblement quelqu'un d'armé dans le coin qu'on tente d'appréhender. Peu d'informations filtrées à date du côté du SPVM. Il va falloir donc suivre ce dossier tout au long de l'avant-midi en espérant que ça se règle rapidement et sans violence. L'autre intervention policière dont je vous parlais, c'est cette chasse à l'homme qui se déroule toujours dans le Bas-Saint-Laurent. Jérôme Vincent Vaillancourt, recherché pour liberté illégale, qui se serait échappé lors d'un transfert, d'une sortie du centre de détention, a brisé ses conditions. Il pourrait être armé et dangereux. On l'a vu mercredi, ou plutôt on l'aurait vu au volant d'une voiture volée. Bref, il pourrait être très, très loin. Nouveau-Brunswick, ailleurs au Québec. Si vous voyez l'homme qui correspond à cette description-là, 6 pieds 5 pouces, des cheveux châtains, des yeux bleus, a des tatouages tribaux sur les bras, ne l'approchez pas et appelez la police. Communiquez avec la SQ. Donc, une autre opération policière qui est en cours, celle-là, elle dure déjà depuis plusieurs jours. Une autre opération policière, une autre opération qui s'est déroulée hier, mais cette fois-ci de l'autre côté de la frontière. Je parle bien aux États-Unis, en Ohio, à Cincinnati. Un homme armé qui a tenté d'entrer dans les bureaux du FBI. Il était armé, il y avait entre autres un fusil le semi-automatique de type AR-15 qu'on retrouve souvent dans la plupart des fusillades aux États-Unis. Il avait un fusil à clous, une veste pare-balles. Il a tenté d'entrer dans les bureaux du FBI. Il y a des agents qui sont arrivés. Il y a une chasse en voiture qui s'est poursuivie jusque dans un champ de maïs où, finalement, après avoir tenté de négocier avec l'homme pour qu'il baisse les armes, il aurait pointé ses armes à feu sur les agents de la paix qui ont, en retour, fait feu sur lui. Son décès a été constaté sur place. Pourquoi on vous parle de cette intervention-là? Parce qu'il y en a des décès par arme à feu aux États-Unis dans une journée, hein, dans une semaine, dans un mois. Le total est toujours ahurissant dans ce pays-là. On vous en parle parce que ça fait suite, tout ça, à la perquisition qui s'est déroulée chez Donald Trump, l'ancien président américain, lundi. Cette perquisition-là du FBI a semé la colère dans les milieux de droite, d'extrême droite, surtout aux États-Unis. Hein. Déjà qu'on accuse les démocrates de toutes sortes de mots, les théories du complot qui se multiplient là, sur la chose constamment. Eh bien, dans ce cas-ci, il y a beaucoup de ces gens de milieu de droite qui croient que ben, Donald Trump se fait harceler par le FBI, voire que le FBI aurait planté des preuves chez lui pour justifier une arrestation. C'est pure fabrication, bien évidemment, et l'ex-président est le premier à répandre ces rumeurs-là sur les réseaux sociaux. Mais ça reste que ça attise la flamme chez les gens des milieux d'extrême droite. Je lis des menaces sur certains forums depuis lundi. Il y a le ministre de la Justice là, des États-Unis qui a reçu toutes sortes de menaces déjà de mort. Le directeur du FBI aussi. Et donc, même s'il est trop tôt pour dresser un lien clair entre cet homme-là qui a tenté d'entrer dans un bureau du FBI et la perquisition de lundi, mais NBC a rapporté que selon trois personnes différentes impliquées dans l'incident, le suspect aurait été vu sur des photos à l'insurrection du 6 janvier au Capitole. Donc, serait un ardent partisan de Donald Trump, selon ce qu'on peut voir. Aurait peut-être, c'est pas clair encore, pénétré même le Capitole. Bref, il n'y a pas de lien absolument certain. Mais si on suit les petites miettes de pain à terre, on peut voir qu'il y a un certain lien entre tout ça. Bref, on peut voir qu'il y a des événements de violence qui peuvent être soulevés par les propos comme ça de l'ancien président. Il n'a beau plus être au pouvoir, il continue de rester une menace pour la démocratie américaine. Sinon, on revient ici au Québec, un dossier qui est suivi depuis le début de l'année, des revendications qui ont été faites, entre autres, par le Parti libéral du Québec, le Parti québécois, par rapport à notre eau potable ici au Québec. On a demandé là une révision à la hausse de la tarification de l'utilisation de l'eau qui est pompée ici au Québec par toutes sortes de compagnies, Amaro, Pepsi, Coca-Cola, Esca, Naya, on en passe, hein? On a 3% des réserves d'eau potable mondiale ici dans la province, et c'est pas pour rien qu'il y a bien des entreprises qui viennent la pomper, sauf que on n'a aucune idée des volumes d'eau précis qui sont pompés par ces entreprises-là. Tout ça en même temps où en Europe, par exemple, certains pays comme la France, l'Angleterre sont pris avec des sécheresses monumentales, des pénuries d'eau potable, et ça pourrait même affecter ici certaines municipalités du Québec. Et ça en affecte déjà. Une des MRC qui est très affectée, c'est celle de Vaudreuil-Soulanges. Geneviève Lachance est mairesse de Saint-Lazare, qui fait partie donc de cette MRC et est membre de la table de l'eau de la MRC Vaudreuil-Soulanges. Bonjour, Madame Lachance.
Bonjour.
Vous avez fait une demande au gouvernement Legault. Quelle est cette demande, précisément?
Bien, la demande qu'on fait au gouvernement, c'est d'être un exemple dans la saine gestion de nos ressources en eau potable et de changer la loi pour reconnaître justement que les données qui viennent des prélèvements d'eau soient publiques, parce que présentement c'est des données, comme vous dites, qui sont secrètes. On n'a aucune façon de savoir combien les embouteilleurs prélèvent des eaux souterraines.
Aucun moyen de le savoir. Et vous, j'en parlais un tout petit peu, mais peut-être que vous pouvez m'éclairer davantage là. Vous avez des problèmes d'approvisionnement en eau. Ici, là, on est au Québec, on est censé avoir de l'eau potable là, en grande quantité. Pourtant, dans votre MRC, particulièrement à Saint-Lazare, votre municipalité, il y a des problèmes d'eau potable parfois.
Mais oui, on suit de très près justement les nappes phréatiques, les nouveaux nappes, parce que on s'approvisionne de l'eau souterraine, 100% de l'eau est prise de la terre. Alors, c'est très important de garder l'œil sur les niveaux de nappes et de connaître les données précises pour savoir tout ce qu'on a à faire pour protéger la ressource, parce qu'une fois qu'une nappe est asséchée, mais on peut plus vraiment remédier à la situation. Fait que si on veut pas avoir des pénuries d'eau potable, c'est très important là, d'être proactif.
Ouais, mais je reformule la question. Vous avez, vous, déjà des problèmes d'approvisionnement d'eau potable? Ça arrive parfois dans l'année?
Dans les deux dernières années, on a eu des restrictions complètes d'arrosage extérieur parce que justement nos nouveaux nappes étaient très basses. C'est dû grandement au changement climatique, aux sécheresses qu'on a eues. Un peu, on l'entend, ce qui arrive en Europe, ben ça pourrait arriver ici au Canada, au Québec. Alors oui, les dernières années, on a eu des problématiques à cause de ça et la surconsommation aussi.
Avez-vous eu des réponses, des échos à date du gouvernement vis-à-vis de vos demandes?
Non, pas pour l'instant, on n'a rien eu depuis qu'on a passé la résolution au mois de juin.
Oh, donc ça fait quand même un bout que vous êtes sans réponse. Est-ce que, autre que le gouvernement provincial, vous avez eu des réponses, des appuis ailleurs? Est-ce qu'il y a des organisations qui ont décidé de vous appuyer dans vos démarches?
On demande l'appui de la FQM et de l'UMQ, ainsi que tous les autres municipalités du Québec. S'ils pouvaient passer une résolution et faire un appui, ça serait vraiment extraordinaire, parce que je pense qu'on n'en parle pas assez. C'est une problématique qui est quand même répandue au Québec. On a quand même plusieurs villes qui s'approvisionnent de l'eau souterraine. Alors, ça serait important, mais non, on n'a pas eu encore là, de support de d'autres organismes.
Non, puis même du côté des municipalités, l'UMQ, la Fédération québécoise des municipalités, est-ce qu'ils sont dans le même sens que vous? Est-ce qu'ils abondent dans le même sens?
On attend des réponses. C'est sûr qu'on est en période de vacances, fait que c'est un petit peu plus tranquille, mais d'ici l'automne, il devrait y avoir des suivis de fait.
Comme je le disais plus tôt, un peu, il y a le Parti libéral, le Parti québécois, qui, eux, ont déjà réclamé une révision à la hausse de la tarification pour l'utilisation de l'eau. Hein, il n'a pas changé depuis 2010. Outre dévoiler la quantité d'eau qui est pompée, pensez-vous qu'on devrait aussi augmenter cette tarification sur l'eau?
Ben, clairement, il y a des coûts associés avec le prélèvement des eaux souterraines de l'exploitation qu'ils font. Alors, oui, on peut, même si on se compare avec les autres provinces et les autres pays, clairement, on voit qu'on n'est pas, on est sous les niveaux de redevances. Mais en plus, les redevances reviennent pas aux villes. Fait que c'est sûr que on exigerait aussi qu'il y ait une redevance qui soit envoyée directement aux villes pour aider à financer tous les impacts que ça peut causer là, pour quand on parle de faire un nouveau puits ou remédier à des situations comme on peut penser, je sais, Saint-Lin, des Laurentides, où est-ce qu'ils ont de la difficulté avec leur eau potable, ben il faut être capable de financer ces travaux-là. Alors, des redevances données directement aux municipalités seraient vraiment souhaitables.
OK, des redevances, donc, directement à partir des entreprises ou le gouvernement, dans le modèle que vous auriez, reprendrait l'argent, le redistribuerait. Puis est-ce que ça irait, je suis votre idée un tout petit peu, est-ce que ça irait par nappe phréatique, par exemple, les municipalités qui utilisent X nappes phréatiques seraient dédommagées si une entreprise vient puiser dans celle-là précisément? C'est ce que vous avez en tête?
Ouais, si on a des entreprises sur le territoire qui utilisent l'eau souterraine à fin commerciale, les redevances devraient être payées directement aux municipalités.
Geneviève Lachance, mairesse Saint-Lazare, membre de la table de l'eau de la MRC Vaudreuil-Soulanges. On entend vos demandes par rapport au prélèvement des eaux en espérant que le gouvernement vous entendra aussi là-dessus. Je vous avoue que j'ai plusieurs questions également sur notre ressource qui est de plus en plus précieuse et qui se fait puiser. Merci, Mme Lachance.
Merci. Bonjour.
Mme Lachance avait un bon point. Hein? Je veux juste le rappeler pour nos auditeurs, auditrices. En 2018, là, on parlait d'à peu près 2 milliards de litres d'eau embouteillés au Québec. Ça rapportait moins de 150 000 $ au gouvernement québécois. Par rapport à ça, l'Ontario, par exemple, eux, c'est 23 millions de dollars qu'ils ont fait sur l'eau qui a été puisée. Hein, notre redevance de base, taux de redevance de base ici au Québec, 2,50 $ par million de litres d'eau qui est puisée. OK, pour les bouteilles d'eau, 70 $ par million de litres d'eau. 2,50 $. Je répète, 2,50 $ par million de litres d'eau qui est pompée ici au Québec. Une ressource qui est indispensable pour la vie et qui est de plus en plus rarissime dans le monde. L'Italie, eux, c'est 2 000 $ par million de litres, par exemple. Danemark, 10 000 $ par million de litres. Nous, je le répète, 2,50 $.
Vous écoutez Alexandre Morin-Ville-Ouellette.
Cube Radio. L'espoir.
Direction quart de finale pour Félix Auger-Aliassime.
Et la voilà, cette victoire de Félix Auger-Aliassime qui devient, corrige-moi si je me trompe, Mathieu, le premier Québécois à atteindre le quart de finale, hein, à l'Omnium Banque Nationale.
Ben ça, bon matin, Alex.
Bon matin.
Moi, cette statistique-là là, me chatouille un petit peu, là.
Je vais dire
un petit peu parce que Alexandre Wozniak l'a réalisé aussi le quart de finale à Montréal.
Il y a
plusieurs années. Mais là, c'est peut-être qu'il parlait plus chez les hommes.
Oui, chez les hommes.
C'est le premier gars qui le réalise. OK, parfait. Mais tu sais, c'est pas le premier Québécois. T'sais, si on inclut là les non-genrés, non-binaires, tu sais, comme aujourd'hui en 2022, là.
Bon, il est le deuxième.
Là, lui, ben ouais, c'est ça, tu sais, je veux dire ça. Je sais pas, ces statistiques-là, moi, Alex, là, j'en prends pis j'en laisse. Moi, je connais très bien Félix Auger-Aliassime avec les années, là. Lui, OK, c'est une étape, là, mais lui, c'est pas ça qu'il veut. Il veut le gros trophée, là. Il veut le gros trophée avec en croix, comme ça, là, tu sais, le super beau trophée que la Banque nationale, c'est ça qu'il veut.
Ouais.
Lui, hier, là, c'était rien qu'une étape, pour la suite des choses. Là, aujourd'hui, gros client avec Casper Ruud. Je te dis, c'est un autre match à ne pas manquer parce que là, c'est un choc de la nouvelle génération. Casper Ruud, c'est plus un joueur de terre battue, mais qui est capable de trouver ses repères sur surface dure. Il a déjà fait une finale dans un Master 1000. Il a un arsenal assez complet. Félix a les armes pour le battre, mais Casper Ruud a aussi les armes pour battre Félix. Donc, ça va être un match super intéressant à regarder. Sur le central, après celui de Nick Kyrgios et Hubert Lukács, le Polonais. Et je te dis, les deux meilleurs matchs de la journée, je pense que ça va être lors de ces deux premiers matchs-là, là, les deux premiers matchs, Ukach, Kyrgios et Oje Yassim, Rude, sur le central. À part la suite, on va avoir droit à deux duels un peu d'inconnus.
OK.
Mais je te dis, Alex, hier, Félix Oje Yassim, il a livré une de ses meilleures performances de la saison. Puis j'en ai vu, là. J'en ai vu beaucoup, là. Dominant en retour de service, dominant au service, comme j'ai jamais vu. Et lui me dit, ah ouais, au niveau des top performances de ma saison, j'en ai encore des meilleurs. Je crime. Je dis, ça va être quoi? Là, ce qui va dire que j'ai été presque parfait. Tu sais, hier, c'était sublime la manière qu'il a servi. 85% de première balle. Il a réussi à convertir ça en points à 92% du temps. 15 ases. Aucune balle de bris donnée. Norrie n'a pas été capable de provoquer une balle de bris dans ce match-là. Alors que Félix, lui, de son côté, là, il était capable de mettre Norrie sur les talons constamment quand il avait le service. Je te dis, aujourd'hui, Félix, je le sens très en moyen. Il le sent libéré. Je pense que le premier match, il l'a beaucoup libéré. Tu sais, il a gagné contre Nishioka. Beaucoup de tension. Mais là, ces tensions-là, on l'ensemble disparu, puis ça, c'est très prometteur pour après-midi.
Est-ce que ma prochaine question, c'est est-ce que là, de la manière dont le tournoi est organisé, est-ce que Félix Auger-Aliassime va affronter l'un des gagnants des deux duels un peu méconnus que tu dis, ou il pourrait affronter Nick Kyrgios au prochain tour s'il gagne lui aussi?
Moi, je pense que là, on se dirige vers des matchs. Les deux, la demi-finale, là, de ce côté-là du tableau, là, ça va être Félix. Là, c'est Félix et Rude. Et l'autre match qui va déterminer leur opposant à ces deux-là, ça va être Urkach puis Kyrgios. Fait que moi, je pense que la demi-finale de cette année va être la finale avant le temps. Parce que Kyrgios, Félix Auger-Aliassime, Urkach, Félix Auger-Aliassime, Rude. Kyrgios ou Rude contre Urkach, c'est du très grand tennis qui va jouer là, mais en bas du tableau là, ça a été une catastrophe pour les organisateurs. Encore hier soir, Yannick Sinner, qui est un demi-finaliste à Wimbledon, qui a été évincé du tableau par Carreño Busta, l'Espagnol. Moi, je suis un peu à court de mots. Hier, moi et mon collègue Benoît Rioux de l'agence QMI, on regardait ça et on se dit, OK, mais ça a comme pas de bon sens. Il va y avoir un suspect en finale. Il va y avoir deux suspects en demi-finale. Puis en finale, ben, il va y avoir un autre suspect ou un gars. Faut pas les appeler des suspects, OK? Je veux pas manquer de respect envers ces joueurs-là parce que quand même, quand t'es dans le top 100 mondial, t'es parmi la crème de la crème de la crème, là. T'as des milliers de joueurs à travers le monde. Fait que, tu sais, tu dis, bon, ben, il est dans le top 100. Non, les gars, ils ont quand même du talent. C'est juste qu'ils sont moins connus du public. C'est pas les favoris du tournoi. Ils sont arrivés un peu sur... Tu sais, il y en a un comme Jack Draper hier qui a gagné contre Sinner. C'est un qualifié. C'est un Britannique, OK, mais il a du talent pis tout. Ça fait longtemps qu'il roule. Mais il y a personne qui avait prévu qu'il se rendrait en quart de finale là à Montréal. Là. Lui, là, moi, je me disais un tour, peut-être deux. Mais là, hier, il a battu Yannick Sinner. Donc, le gars, il a des capacités, il a des habiletés pour battre un des meilleurs au monde. Est-ce que Yannick Sinner était dans une mauvaise journée ou Jack Draper, il joue au-dessus de sa tête? J'ai aucune idée, mais Jack Draper, encore une fois, a surpris tout le monde hier. Puis là, ben il se ramasse en quart de finale. Puis, tu sais, à ce moment-ci, là, je peux dire que tout peut arriver. Puis, tu sais, c'est comme l'en bas du tableau, là, comme je te dis, là. T'avais les Taylor Fritz, Yannick Sinner, c'était le dernier favori qui existait dans ce bas de tableau-là. Fait que je peux même pas te dire ce matin quels joueurs vont se ramasser en quart de finale aujourd'hui, tu sais. Puis je trouve ça hallucinant de voir ça parce que tu sais, on est tellement habitué, Alex, avec les années, qu'il y a une domination de tout le temps les mêmes joueurs que là, on est comme désarmé. Hey, comment ça se fait que il y a des joueurs qu'on connaît moins qui se ramassent en quart de finale? Là, j'hésite devant tous les yeux, Alex. Daniel Evans va affronter Tommy Paul, puis Pablo Carreño Busta va affronter Jack Draper. Ouais. Ça, là, pogne un 25 sous, là, lance les dans les airs, puis peut-être qu'on va avoir une réponse, savoir qui va être le finaliste là-dedans. Mais un gars comme Tommy Paul puis Daniel Evans connaissent une très bonne semaine à Montréal. Tommy Paul, là, ça a commencé avec Carlos Alcaraz. Tout le monde l'avait enterré avant même que le match commence. Puis il a livré une performance. On pensait qu'il joue au-dessus de sa tête sur l'histoire d'une journée. Non. Mais il ça a reste, joué... Ouais. Ouais, vas-y, Alex.
Ça, mais ça reste intéressant. Moi, j'aime ça. C'est le genre d'histoire qui permet aussi peut-être de voir émerger des joueurs. Là. Nous, on regarde nos Québécois, nos Québécoises jouer outre-mer, ouais, dans des tournois comme ça de Masters 1000 souvent. Puis là, on les voit émerger, tu sais, ils gagnent un tournoi, on s'attendait zéro à ce qu'ils fassent ça. Mais là, il y a peut-être des Britanniques qui regardent un de leurs joueurs ici qui performe soudainement beaucoup mieux qu'à l'habitude. C'est peut-être le début de grandes choses pour certains joueurs. Moi, ça m'intéresse toujours. Et là, tu l'as dit tantôt, mais moi, je commence tout de suite à saliver. Si on a un match, ouais, Félix Auger-Aliassime, Nick Kyrgios, là, où que je vais écouter ça. Ça serait la finale idéale dans ma tête, mais une belle demi-finale, ça se prendrait bien.
Ouais. Mais Félix, pour le moment, a 2 victoires, 0 défaites contre Kyrgios en finale.
Oh.
Il y avait un match que Kyrgios était blessé, puis l'autre match, Félix l'avait battu vraiment à la régulière. Fait que tout est possible pour Félix encore une fois à ce moment-là. Mais j'aimerais ça te parler un peu de la philosophie britannique. Evans puis Jack Draper, là, Louis Caillé, quand je l'ai rencontré à Wimbledon, m'avait parlé de la philosophie des Britanniques. D'ailleurs, j'ai fait un reportage avec Louis Caillé en début de tournoi. Là, j'avais écrit mes textes de Wimbledon, mais avant le tournoi de Montréal. Et il m'avait expliqué comment ça fonctionne en Angleterre. Eux autres, là, ils appellent ça un performeur. Si t'es un performeur, il faut que tu aies l'attitude positive de A à Z, du début à la fin du match, et que tu cours toutes les balles et que tu donnes tout ton maximum sur le terrain. Fait que quand tu donnes ton maximum sur le terrain, tout peut arriver. Il y a des journées, non. Mais des journées, là, que l'autre bord, là, il est moins dedans, puis tu as un favori, mettons, là, comme dans le cas de Jack Draper hier, ben tout peut arriver. Puis Jack Draper, il s'est présenté sur le terrain, puis il dit, ben on va tout essayer, puis on verra ce qui va arriver. Et les Britanniques, là, tu remarqueras, là, ils ont beaucoup de joueurs. C'est non seulement des joueurs de simple. Tu sais, tu as eu Jack Draper, Daniel Evans, qui sont en quart de finale aujourd'hui. Hier, tu avais Cameron Norrie, qui est pas à dénigrer non plus, parce que Cameron Norrie, hier, il a affronté seulement un Félix Auger-Aliassime, seulement trop fort pour lui. Puis en double, là, ben, les joueurs de double qui sont dirigés par notre Québécois qui est rendu britannique, Louis Caillé, ils ont 3 joueurs. Daniel Evans, en plus de jouer en simple, il s'en va jouer en double aujourd'hui. Fait que, t'imagines-tu, là, la journée qu'il y a, là, le gars, il peut se rendre en demi-finale en simple, en demi-finale, en double.
C'est des méchantes. Ça fait des méchantes journées de sport. Ça fait des grosses journées de tennis dans le corps. Hein. C'est pas vraiment facile. Je veux pas qu'on passe non plus sous silence, même s'il est à Toronto, le tournoi des dames. Malheureusement, on a une de nos favorites qui a quitté.
Oui, exactement. Comment qu'elle s'appelle?
Bianca Andreescu.
Excuse-moi, là. Moi, c'est ça. J'ai un trou de mémoire. Bianca Andreescu, hier, elle s'est inclinée contre la Chinoise Zhang en 3-7 de 5-7, 7-5 et 6-2. Lors de la troisième manche, c'était une question d'opportunisme. Zhang a été tout simplement plus opportuniste que Bianca Andreescu. Puis, ben, Bianca a livré comme une bonne bataille quand même. Mais il en manquait un petit peu hier pour l'emporter. Un duel qui a duré quasiment 3 heures. Alors, c'est la fin des Canadiennes à Toroto, à l'ETA, au tournoi de l'ETA de Toronto. Et on va espérer, j'ai hâte de voir la suite des choses parce qu'il y a quand même beaucoup de surprises là aussi à Toronto où ce que, tu sais, Rybakina a perdu, je crois, hier. C'est ça, tu sais, je veux dire, Zvitek a perdu hier aussi contre la surprenante brésilienne Haddad Maia. Je te dis, que ce soit à Montréal ou à Toronto, il y a des surprises, mais il faut pas oublier aussi que Montréal est un des premiers tournois sur surface dure. Donc, les meilleurs joueurs du circuit cherchent le repère sur surface dure. Et ceux qui sont éliminés rapidement à Montréal et à Toronto, ben, ils s'en vont tous à Cincinnati pour la semaine prochaine, pour le prochain tournoi. Medvedev a déjà dit qu'il s'en allait à Toronto, pas à Toronto, mais à Cincinnati aujourd'hui pour se préparer pour le prochain tournoi. Puis après ça, c'est les US Open, les internationaux des États-Unis. Donc, les gars puis les filles, ils trouvent leur repère à Montréal, mais moi, je trouve que c'est pas la première fois de la saison que ça arrive où ce que les favoris se font sortir rapidement avant la ronde quart de finale, demi-finale et même finale. C'est arrivé aussi cette année. Est-ce que c'est un effet post-pandémie, Alex? Je le sais pas, mais c'est pas la première fois que ça arrive. La situation qu'on voit à Toronto par Montréal, c'est pas la première fois que ça arrive cette saison. Et je pense aussi que ça prouve à quel point le niveau de tennis est en train de devenir très compétitif. que tout le monde peut battre tout le monde, puis que, tu sais, les ténors, au niveau masculin,
ça, c'est intéressant.
Les ténors, là, c'est ça, exactement. Là, là après, lorsque le Djokovic, là, il a quand même 36 ans, au même titre que Nadal, 33-34 ans, Nadal 36 ans, tôt ou tard, ces gars-là vont disparaître. Fait que là, ça va être une guerre, mais pas à deux ou trois, ça va être une guerre à plusieurs. C'est ça, ça va être super intéressant. Puis Félix Auger-Aliassime, ben excuse, mais il va être dans cette guerre-là, ouais, avec les Titi Pass, avec les Casper Ruud, avec les Carlos Alcaraz.
L'avenir du tennis, c'est super brillant, puis c'est un bon moment, comme ça, l'Omnium Banque Nationale, ici à Montréal, pour intéresser les amateurs au tennis, parce que c'est tellement plus agréable à suivre, surtout quand on a un Québécois comme ça qui se démarque à l'international. Et tu me parles de surprise depuis tantôt, Mathieu. On sort un peu du tennis. Il y en a une autre surprise, mais c'est les Alouettes qui l'ont causé.
Hey, hier, là, je revenais du tennis, évidemment, qui était rendu 10h30-11h, mais là, j'ouvre la télévision, puis là, je remarque que les Alouettes sont dans le match contre les Blue Bombers de Winnipeg, qui étaient invaincus en 9 matchs depuis le début de la saison.
Oh!
Fait que là, je dis, OK, il y a quelque chose qui se passe là, peut-être. Mais en deuxième demi, habituellement, les Alouettes, depuis le début de la saison, ont de la difficulté à maintenir l'effort puis à jouer 60 minutes de bon football. Mais là, hier, qu'est-ce qui est arrivé? C'est qu'en deuxième demi, ils ont tenu bon, puis ils ont rivalisé avec les Blue Bombers, puis ils ont poussé le match en prolongation à cause d'un botté raté du botteur des Blue Bombers, les Gio. Et là, en prolongation, David Côté fait un placement et la réplique revient aux Blue Bombers, mais le botté d'Oligio, le botteur des Blue Bombers, ben atterrit sur le poteau.
Oh boy.
Donc, les Alouettes ont été battre Winnipeg, les Blue Bombers de Winnipeg, qui étaient invaincus à Winnipeg, dans leur château fort. Donc, là, c'est une victoire, 3 victoires, 6 défaites pour les Alouettes à la mi-saison. Et j'espère que ce match-là va servir de tonique pour la prochaine moitié de saison, la deuxième moitié de saison, où ce que les Alouettes, tous les espoirs sont permis dans la section Est, où ce qu'ils peuvent encore remporter le championnat de la section, de leur section, avec moindrement un rendement, comment je pourrais dire ça, respectable. Et tout est permis pour les Alouettes. Et moi, je pense que ce match-là pourrait être un tournant de la saison, que ce soit pour les prochaines éliminatoires ou même le championnat de la section. Imagine-toi si ce match-là vient de tourner la saison puis que là, les Alouettes se mettent à gagner parce que là, ils vont affronter beaucoup leurs rivaux de section, que ce soit les Argonauts, les Red Blacks, le Rouge et Noir et également les Cats d'Hamilton dès le prochain match. Tout est possible pour la troupe de Manny Machocha, mais Danny Machocha hier a bien résumé comment moi je voyais ça, c'est que oui, on gagnait un match, mais ils sont loin d'être sortis du trou et de retrouver la respectabilité. Je pense que Danny aimerait beaucoup que son équipe finisse avec un dossier de 500 à la fin de l'année, soit 9 victoires, 9 défaites, pour rentrer dans les éliminatoires sur un bon pied.
Oui, surtout que tu l'as dit, on est chanceux cette année, là, malgré les déboires des Alouettes, mais la conférence Est est pas mal moins forte, ce qui ouvre la porte à nos oiseaux de Montréal. Mathieu Moulin, je vais te souhaiter encore une belle fin de semaine de tennis, hein, chanceux. Oui. On va suivre tes textes dans le Journal de Montréal, entre autres, et tout ce que tu vas écrire sur tout ça. Très hâte de se reparler lundi de tout ce tennis qui se jouera en fin de semaine. Merci, Mathieu.
Merci, Alex. Bonne
Salut.
Fin de semaine.
Alexandre Morinville-Ouellet. Il circule au travers de l'autoroute de l'information, sans dérapage ni accrochage. Cube Radio. Les rencontres de l'air. Chaque heure, une nouvelle rencontre. Nouvelle rencontre. Les rencontres de l'air. À la fin de chaque rencontre, soyez assurés que le vainqueur, ce sera vous. Cube Radio.
Une radio pas comme les autres.
Julia Pagé, Rémi Villemur, bonjour à vous deux et bon vendredi.
Bonjour.
Écoutez, dossier sur lequel on n'a pas eu le temps de revenir cette semaine et bon moment pour le faire. Une étude, une enquête qui a été menée par l'Association d'études canadiennes, recueillie entre autres à partir d'un sondage léger, révèle que les membres des minorités religieuses au Québec se sentent moins en sécurité, moins acceptés, moins optimiste face à l'avenir, tout ça depuis l'adoption de la loi sur la laïcité de l'État, la fameuse loi 21. Il s'agit évidemment là, d'un sondage sur le sentiment hein, que vivent ces communautés-là, demandé individuellement, mais tout de même, c'est une proportion qui est beaucoup plus grande chez les gens consultés qui sont issus de minorités religieuses que chez les Québécois moyens là, qui répondent au sondage. Qu'est-ce que ça révèle, selon vous, tout ça? Je vais commencer par toi, Julia. Qu'est-ce que ça révèle, ce genre d'étude-là?
Ben, pour moi, l'étude confirme ce qu'on craignait ou ce que beaucoup craignaient, que la loi 21 ne soit pas neutre, que ce soit plutôt une loi discriminatoire qui affecte de façon disproportionnée les musulmans. Ce que l'étude nous dit aussi, c'est que 75% de ceux qui appuient la loi 21 ont une opinion négative sur l'islam. 75%! Pas une opinion négative sur le djihadisme, là, sur la religion musulmane en général, alors que seulement 36,5% ont une opinion négative du christianisme. Mmh. Mais qu'est-ce que les musulmans nous ont fait? Vraiment, là, qu'est-ce qu'ils nous ont fait? On doit réaliser qu'on est en train de nous faire craindre une partie de la population qui ne nous a rien fait. Et si on regarde les faits, c'est plutôt eux qui auraient des raisons de nous craindre. On se souviendra de la mosquée de Québec. Et si on regarde notre histoire, on devrait plutôt craindre l'Église catholique que quelques femmes voilées. Encore plus inquiétant dans le sondage, on nous dit, comme tu l'as dit Alexandre, qu'une majorité de Québécois musulmans, juifs et sikhs rapportent un déclin dans leur sentiment d'acceptation en tant que membres à part entière de la société québécoise. Pire encore, 67% des femmes musulmanes disent avoir été exposées à des incidents et à des crimes haineux. En tant que peuple, ce ne sont pas des résultats desquels on devrait être fiers. Et une loi qui affecte de façon disproportionnée une partie de la population québécoise, je répète, québécoise, doit absolument être révisée.
Ton avis à toi, Rémi?
Moi, je pense que on n'a rien fait aux musulmans et les musulmans ne nous ont rien fait. Là. Je pense qu'on devrait rester sérieux quand même. Là. Moi, ça faisait longtemps que les Québécois demandaient cette loi-là. Ce que l'étude nous rappelle, c'est que la loi est supportée par 64% des Québécois. Je pense que c'est ça qui doit nous préoccuper. Qu'est-ce que la majorité des Québécois veulent? Évidemment, il faut demeurer à l'écoute des minorités. Julia a raison, rester vigilant, empathique. Mais d'ailleurs, c'est exactement ça que le gouvernement a fait, en mettant sur pied des consultations, des auditions publiques. Ils ont lu et reçu des dizaines et des dizaines de mémoires. Donc, quoi qu'en disent les opposants à la loi, les choses se sont faites dans l'ordre, là, dans le respect des institutions démocratiques. Puis, il est arrivé ce qui doit arriver dans toute société démocratique. La majorité a eu le dernier mot. Donc, je pense que cette histoire-là de loi 21, elle doit nous rappeler ça. C'est toujours beaucoup plus réaliste et surtout plus juste qu'une minorité s'adapte à la majorité. C'est le contraire qui est irréaliste et qui est injuste.
Julia, je veux te réentendre là-dessus parce que je dois t'avouer que je souscris un peu aux propos de Rémi là-dessus. Quand on parle de questions démocratiques, un vote dans une société, ça revient à la majorité. C'est ça le concept même de démocratie. Si on a choisi ça à grand pourcentage, je le rappelle, là, près de 64% des Québécois étaient en faveur de la loi 21, ils l'appuient. Est-ce qu'on ne devrait pas quand même se plier à tout ça? Ou c'est quoi ton avis là-dessus?
La majorité n'a pas toujours raison. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas l'écouter. Et il y a plusieurs exemples dans l'histoire de lois qui ont été passées démocratiquement, de choses qui étaient tout à fait légales et qui étaient amorales. L'esclavage est peut-être le meilleur exemple. Là, évidemment, on n'est pas au point de parler de quelque chose d'aussi grave que l'esclavage, mais qu'est-ce qui arrive quand une majorité vote pour une loi qui s'avère avoir des effets discriminatoires? Est-ce qu'on ne peut pas, à ce moment-là, se dire, bon, d'accord, est-ce que les valeurs de base du peuple québécois sont de dire, ben, on ne peut pas discriminer une population au profit d'une autre? Le but de la loi, ce n'était pas la discrimination. Donc, la loi en tant que telle, bon, d'accord, on peut souscrire. Mais si on voit que les effets sont autres, mais pourquoi on ne devrait pas réagir? Puis c'est pourquoi le gouvernement fédéral veut intervenir. Puis dans l'étude, ça dit qu'il y a beaucoup de gens qui sont en faveur de ça, une majorité d'ailleurs. Donc, je pense que finalement, il faut que ça reste légal. Oui, évidemment, il faut écouter la majorité, mais il faut vraiment faire attention. La majorité n'a pas tous les droits.
Non, pas tous les droits, Rémi. Par contre, comment tu penses qu'on peut encadrer les dérives potentielles, même si la majorité prend une décision comme celle-là?
Ben, tu sais, il faut oser poser les termes de la discussion. Là. Si la majorité n'a pas toujours raison, les minorités non plus. Et le seul exemple que tu trouves, Julia, dans l'histoire de l'Amérique, c'est l'esclavage, puis tu veux pas comparer surtout l'esclavage à la loi 21, mais tu parles de l'esclavage, donc en tout cas, c'est un peu maladroit, je trouve, de ta part. Là. La majorité des Québécois supportent cette loi-là. Il y a une disposition de droit acquis pour les gens qui sont en poste, qui peuvent préserver le droit de porter un signe religieux. Cette loi-là ne touche pas spécifiquement les musulmans, elle touche tout le monde. C'est tout le monde qui ne peut plus porter un signe religieux. Ça, il faut quand même le rappeler. Il y a eu tout un lobbying assez puissant autour de la question musulmane, mais ça ne vise pas que les musulmans, ça vise tout le monde. C'est une loi qui touche tous les Québécois.
Julia?
Mais la raison pour laquelle l'esclavage est un exemple intéressant, c'est vraiment juste de dire que parfois, on a l'impression que la majorité va d'un côté et donc que nécessairement la majorité a raison. Mais c'est pas une question de mettre les minorités sur le même pied d'égalité que les majorités. C'est juste de dire que quand on écoute la majorité, il faut aussi prendre en compte les minorités, c'est-à-dire de s'assurer que les majorités ne discriminent. Non, mais bien sûr que non, parce que là, on voit que les femmes musulmanes sont de façon disproportionnée se trouvent finalement sur le mauvais côté de cette loi-là. Et c'est elles qui ont tous les désavantages. Quels sont les avantages pour les gens québécois? Pour moi, les avantages pour la majorité sont beaucoup moins grands que les désavantages pour les minorités. Puis si on fait ce calcul-là, ben pour moi, ça ne fonctionne pas et la loi ne fonctionne pas.
Je veux quand même tempérer aussi, là, j'interviens là-dessus. Quand on parle de l'esclavage aussi, Julia, par contre, oui, ça a été voté de manière démocratique, mais les gens qui étaient concernés par l'esclavage n'avaient pas de droit de vote. C'est pas des gens qui étaient considérés comme des citoyens. C'est pas des gens qui pouvaient même avoir une influence sur ces lois promulguées, sur leur propre destin.
Bien sûr, on est quand même un endroit. On peut penser à l'avortement, on peut penser aux enjeux de ségrégation. Il y a eu plusieurs moments dans l'histoire où la majorité a voulu quelque chose, mais c'est juste parce qu'on n'avait pas pris le temps d'écouter les minorités.
Non, on peut comprendre. Puis c'est certain qu'il y a des groupes qui vont être plus affectés, des minorités religieuses. Oui, on dit le terme minorité, mais pour être considéré comme cette minorité religieuse-là, c'est les gens qui pratiquent activement une religion dans laquelle il y a des signes ostentatoires comme ceux-là. Certain que la religion est en déclin, en grand déclin depuis longtemps au Québec, on peut comprendre que ça affecte moins l'ensemble des Québécois. Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas nécessairement leur mot à dire là-dessus. C'est un débat qui est vraiment intéressant parce que je vous accorde, on veut surtout, mais surtout pas faire sentir rejeté des gens dans notre société. En même temps, quand on prend des décisions, il y a des décisions qui ne sont pas faciles. Puis en décidant de trancher sur ce débat-là, c'est sûr qu'on allait casser des œufs. On aura l'occasion d'y revenir, très certainement, parce que ça va être contesté éventuellement en Cour suprême, cette loi-là, hein, comme d'autres lois votées démocratiquement au Québec. Et là, on aura un autre débat, celui sur l'indépendance et le droit du Québec de prendre ses propres choix. On reste dans l'arène politique ensemble, les amis. On parle du NPD. On en a déjà parlé un peu, mais j'aimerais qu'on y revienne parce que on parlait de l'absence d'opposition pertinente en ce moment à Ottawa. Jack Meeting, on le voit presque plus. Est-ce que l'NPD s'est pas tiré massivement dans le pied en faisant une entente avec le Parti libéral au point où on voit en ce moment qu'il y a des gens mécontents avec les libéraux et que l'NPD n'est même pas là pour pouvoir récupérer tout ça, Rémi?
Ben moi, en tout cas, après cette entente-là, elle a été annoncée à la mi-mars, puis on est rendu à peu près à la mi-août, puis je comprends toujours pas pourquoi et quelles étaient les intentions du NPD en proposant cette entente-là. J'ai l'impression qu'il y a quelques jours, j'ai l'impression qu'ils ont voulu faire de la politique comme on devrait toujours normalement la pratiquer, c'est-à-dire qu'ils se sont dit on n'a aucune chance de gouverner dans les 10 prochaines années, puis on a des propositions sur notre plateforme, puis on sera pas capable de les faire adopter, donc on va faire une alliance avec les libéraux. Ça, c'est une des hypothèses. Ça serait vraiment noble de leur part là, comme posture, sauf que ça serait aussi signer l'arrêt de mort. Parce qu'aux prochaines élections, les journalistes vont talonner Jack Meeting en lui demandant à chaque fois quelle est exactement l'importance de son parti, si de toute façon, il peut s'allier avec les libéraux. Hein? Donc, un vote pour le NPD, ça serait rendu un vote pour les conservateurs dans un univers comme celui-là. Donc, il y a même une autre possibilité aussi, ça serait que les stratèges du NPD aient prévu, en fait, que les libéraux renoncent à aller de l'avant avec cette entente-là. Et là, à ce moment-là, ça contesterait l'idée que le NPD fait de la politique autrement parce que ça placerait le NPD comme l'instigateur des prochaines élections, du déclenchement des prochaines élections. Et les Canadiens, même s'ils sont insatisfaits de Justin Trudeau, ils veulent pas d'élections avant 2025, en tout cas à ce jour. Ce serait, s'il y a une élection qui est déclenchée en 2023, ça serait la quatrième en 3 ans. Donc, je me demande quelle humiliation le NPD préfère, celle d'avoir joué la boniche des libéraux ou celle d'avoir été à l'origine des prochaines élections, qui pourrait vraiment, vraiment, vraiment ne pas satisfaire les électeurs.
Julia, est-ce que tu penses que Jack Meeting est en train de couler le NPD lendemain, mais sûrement?
Oui, bien, en serrant la main au parti qu'il a si vivement critiqué pendant des années, c'est sûr que Jack Meeting s'est en quelque sorte travesti. Du moins, c'est ce que certains pensent, c'est certains au sein de sa base même. Il a choisi de s'allier avec le pouvoir en faisant cet accord avec les libéraux pour aller chercher quelques gains. Mais du même coup, il a perdu sa capacité et, j'oserais dire, sa crédibilité à critiquer le pouvoir. Et c'était un des rôles les plus importants du NPD. C'était là où le parti pouvait se démarquer. C'est dans un passé pas si lointain, le NPD était pour le Canada un peu l'équivalent du Québec solidaire. Mais force est d'admettre que depuis ce fameux accord avec les libéraux, ben le NPD est nettement moins vigoureux, moins critique, beaucoup plus complaisant avec le gouvernement au pouvoir. Et ben il réalise aussi que les gains qu'il espérait et qu'on lui avait promis ne sont pas gagnés d'avance. Et en plus, évidemment, il y a les conservateurs qui n'ont pas été forts depuis un bon moment. Et donc, il n'y a plus vraiment de rempart contre la complaisance envers les libéraux. J'ose imaginer et j'ose croire que Jack Meeting a pensé à son affaire avant de conclure l'accord, mais pour l'instant, il réussit pas à nous prouver que ses calculs étaient bons.
Non, puis surtout, il se retrouve avec une main de poker un peu vide. Hein? Il n'y a pas vraiment de mesure de son côté pour être capable de forcer les libéraux à respecter même leur entente qu'ils ont signée ensemble. Vraiment, c'est triste un peu pour la démocratie quand les oppositions comme ça se sabordent elles-mêmes, parce que c'est tellement important, le rôle des oppositions, et on a tendance à trop l'oublier. Julien, Rémi, merci pour la belle semaine. On se reparle ensemble lundi.
Vous écoutez Alexandre Morin-Ville-Ouellet,
Cube Radio.
J'ai de la visite très spéciale en studio avec moi aujourd'hui. Ben, pas n'importe qui. Attention, le segment qui peut suivre pourrait vous mystifier ou pourrait vous créer de l'incrédulité peut-être aussi. Parce que j'ai avec moi, pas n'importe qui, le roi des menteurs. Nouvellement sacré depuis lundi, roi des menteurs de l'Académie des menteurs de Montcrambeau. Alors qu'il y a un concours de menterie organisé, oui, en France depuis 1748. Et j'ai le Québécois qui est nouvellement sacré roi des menteurs, Éric Michaud, conteur professionnel et roi des menteurs, souverain, pontife,
ouais,
bonjour.
Ben, on va corriger, en fait, c'est roi des rois des menteurs. Parce que là, j'avais été roi des menteurs avant, mais là, ce qui arrivait, c'est à peu près à chaque 10 ans, ils font un concours du roi des rois ou reine des rois.
La Ligue des étoiles des menteurs.
À peu près ça, ouais, c'est comme le match des étoiles, c'est comme la finale, en fait. Fait qu'ils ramassent les 10-12 meilleurs, et puis là, ils font une grosse finale pour déclarer le roi des rois. Alors, moi, j'avais gagné en 2009, roi des menteurs, et là, on m'a invité, et là, je suis le roi des rois. C'est encore plus incroyable.
Empereur des menteurs, on pourrait dire ça comme ça. Et là, Monsieur Michaud, Éric, je peux vous appeler Éric.
Oui.
Éric, tu viens en studio ici. Tu es venu avec, pour nos auditeurs, avec des preuves, les trophées, une plaque commémorative, le cahier même des menteries ou recueil de menteries. Parce que qu'est-ce qui m'annonce que ce que vous allez me raconter aujourd'hui est vrai?
Ben c'est ça, hein? Je suis un peu obligé à ce stade de tout prouver depuis que j'ai dit les gens ne croient plus rien. Mais j'avertis d'avance, moi je mange juste sur scène, je mange juste pour les concours de menterie. Et en fait, dans les concours de menterie, on peut nous croire parce qu'on est les plus honnêtes des menteurs. On avertit d'avance qu'on va mentir. Il n'y a pas grand monde qui font ça dans la vie, avertir d'avance, je vais vous mentir là.
Non, qu'est-ce que c'est un concours de menterie? Parce que là, je le dis, ça date de 1748, hein? C'est centenaire, multicentenaire, ce concours de menteurs-là, un petit village, 800 habitants dans le sud-ouest de la France. Comment ça se déroule, ce concours-là?
Ben, c'est très simple, en fait. C'est l'Académie des menteurs de Montcrambeau, le petit village, justement, qui, à chaque année, vont décerner le titre à quelqu'un qui aura bien menti. Autrement dit, vous avez à peu près 8 minutes pour raconter une menterie assis sur le fauteuil des menteurs.
Oh.
Ouais, le fauteuil qui est en pierre, là. C'est un genre de pierre qui servait à la justice au 12e siècle.
OK.
Ouais, c'est un peu débile. Et faut embrasser la pierre de vérité qui est derrière, et là, faut travestir toute la vérité. Et là, on a à peu près 8 minutes raconter un mensonge. Ça peut être soit l'origine, la fausse origine de quelque chose d'extraordinaire qui est arrivé mais qui n'est pas vrai, etc., etc. Il faut que l'Académie des menteurs et le public aiment ça. C'est l'académie qui vote, par contre. Mmh. Donc, les petits pages, les enfants qui passent avec un sac après chaque menteur, et les académiciens mettent entre 1 et 10 cuillères de sel, dépendamment comment ils ont aimé la menterie, dans le sac.
Plus il y a de sel, plus on a aimé la menterie.
Exactement. Puis le sac est pesé au gramme près, et celui qui a le sac le plus lourd à la fin du concours, c'est lui qui gagne et est proclamé roi des rois cette fois-ci.
Comment ça se fait qu'un Québécois se soit ramassé comme ça dans une compétition? Est-ce que ça rassemble que les Français? La francophonie, ça ressemble à quoi?
Ça rassemble la francophonie, en fait. Oui, on était quelques Québécois à y aller. Moi, j'étais le premier à gagner le titre, le premier non-européen à gagner le titre.
En 2009, c'est
ça? En 2009. J'ai une collègue, Yolaine, à Québec, qui a gagné le titre par la suite. Elle est devenue reine des menteurs quelques années après. Et il y a d'autres Québécois qui sont présentés aussi. Mais le fait de se retrouver là, c'est de la francophonie. Il y avait des Belges qui étaient là aussi.
Okay.
Et il y a un concours qui se passe en Suisse, il y a un concours qui se passe en Italie. Donc, il y en a un petit peu partout là, sur la planète.
Ça ressemble à quoi, l'histoire que vous avez racontée pour gagner cette année?
Là, cette année, j'ai fait « faut que je joue gros » parce que là, c'est tout ça. Alors, l'idée de construire une menterie, il faut y aller d'abord avec à qui on s'adresse. Hein? Qui est le public qui est devant nous? Là, j'ai affaire à des Français qui, la plupart, ne sont jamais allés au Québec. Donc, ils ont tous les mythes du Québec dans leur tête.
La vision du coureur des bois, là, dans
la
le fin
La neige fond. À longueur d'année, puis les traîneaux à chiens, puis etc. Je mise là-dessus. Alors, je suis parti avec l'idée d'avoir des traîneaux de castors, dans mon cas.
OK.
Ouais, tiré par un attelage de 20 castors sur le dos d'un orignal. Je partais dans le bois, puis là-bas, dans le sud-ouest, il faisait chaud. Là. Il faisait 42 là, à peu près. Là. Super chaud depuis des jours. Il n'y a pas plus depuis des mois.
Oui, il y a une vague de chaleur ahurissante sur l'Europe en ce moment.
C'est pas des farces, c'est hallucinant. Alors, j'ai dit, je vous amène la fraîcheur du Québec, puis comment faire ça? Fait que là, à la fin, l'histoire se passe que j'arrive près d'un lac. Il y a des canards qui ont les pattes gelées sur le lac, qui prennent peur, qui s'envolent avec le lac gelé. Et les pauvres poissons, eux autres, essayaient de s'accrocher en dessous comme ils pouvaient, mais ils commençaient à tomber. Il y avait une pluie de truites qui tombait partout. Et là, j'ai ramassé une de ces truites-là. Et j'ai dit, c'est ça, je vais l'amener, je vais l'ensemencer dans votre rivière ici. C'est une truite du Québec. Et j'ai sorti un accessoire qui est une truite à fourrure.
Qui est en studio en ce moment. La fameuse truite.
C'est filmé. Alors voilà, c'est la truite à fourrure du Québec que j'ai amenée là-bas. J'ai dit, moi, l'ensemencer dans votre rivière qui s'appelle la Baïse. Et à chaque jour, la température va baisser de 5 degrés. Et puis vous allez arriver au point de congélation la semaine prochaine, puis il va neiger. Mais si vous voulez qu'il refasse beau, vous sortez la truite de là, et j'aurai donné un appât qui est un bonbon à l'érable. C'est la truite se nourrit juste de ça. Alors, les académiciens pourront la sortir, la température va reprendre son cours. Mais je les ai fait rire, j'aurais montré qu'au Québec, il fait pas froid, mais il fait frette.
Ah, oh, tu leur as appris le terme frette.
Ah, oh, frette. Et là, c'est des centaines de personnes français qui répondaient frette quand je leur demandais. Ça a été interactif. Ça a été le fun. Les gens ont beaucoup rigolé.
Donc c'était les autres comptes, ça allait dans tous les sens aussi. Comme vous le dites, il y avait des Belges, il y avait plein de gens de la francophonie. Ça racontait toutes sortes d'histoires, mais au final, c'est toi qui as eu le plus de sel dans ton sac, c'est
exactement,
ça?
J'ai eu 1,2 kg de sel qui est quand même... ça pèse dans les bagages, fait que ouais, c'est ça. Et il y avait le Belge, j'ai fini deuxième. Parce que moi, je représentais la confrérie des menteurs du Québec. Hein, je suis président de la confrérie des menteurs du Québec.
OK, attends. Il existe une confrérie des menteurs au Québec.
Oui, puis c'est pas un parti politique pour une fois. c'est vraiment réel. Et c'est une espèce de regroupement pour s'amuser. Hein. Raconter, il y a une différence entre des menteries et des mensonges.
Ah oui?
Menterie, c'est fait pour amuser. C'est fait pour qu'on rie. Tout ça, un mensonge, c'est fait pour tromper. C'est ça qui est la différence. En France, ils ont l'Académie des menteurs et en Belgique, ils ont les 40 molons qui est la Royale Montcrabeau de Namur. Donc, eux autres sont là depuis le 19e siècle, la France depuis le 18e siècle et ben nous, ben, il faut bien commencer à quelque part.
Tu fais partie de cette confrérie-là, mais comme tu dis, tu as déjà gagné en 2009. Comment tu as appris que ça existait, ça, une communauté québécoise francophone de menteurs?
Ben, il n'y avait pas de communauté québécoise avant 2009. Ah. Moi, je l'ai fondée en 2013, je crois. Et il y avait par contre une collègue qui s'appelle Lucie Bisson qui était allée. On avait fait un concours ici organisé par André Lemelin, qui est un conteur aussi, qui avait fait un concours en 2006 au Québec. J'ai participé et j'avais bien aimé ça. Et ma collègue était allée en France là-bas. Elle a su, elle, qu'il y avait ça. Je sais pas comment. Elle a terminé vice-reine. Donc, c'est bien placé. Elle dit, Eric, tu devrais y aller. Fait que pas longtemps après, je suis allé, puis moi, j'avais gagné à ce moment-là. Donc, il y a beaucoup de bouche à oreille. Hein. Dans ces trucs-là, on sait que ça existe, on se passe le mot.
Qu'est-ce qui fait un bon menteur, une bonne menteuse, Éric Michaud?
c'est le fait, ben, premièrement, comme je disais, savoir à qui on s'adresse. Il faut que la menterie s'adresse aux bonnes personnes. T'sais, à des Français, je commence à faire des références sur des trucs qui se passent au Québec, ils vont rien comprendre. Mmh. Alors, il faut qu'ils me comprennent. L'autre chose, moi, je commence tout en disant, ça prend une destination. Il faut savoir où on se rend. Parce qu'en chemin, il ne faut pas hésiter. Si on se trompe de chemin, on fait plein de détours, on va perdre les gens. Donc, il faut savoir comment ça finit, cette histoire-là. Moi, dans mon cas, ça finit ça avec la truite à fourrure. Comment je me rends à truite à fourrure maintenant? C'est ça qui est chemin. Et c'est tout est dans l'art de raconter. Tu sais, il y a des gens qui sont bons pour raconter des blagues, puis il y en a qui sont pas bons. Il y en a qui sont bons pour raconter leurs vacances, puis on a l'impression d'être là, puis il y en a que c'est ennuyant à mourir. Ouais. Fait que c'est un talent que t'as ou t'as pas de raconteur. Mais ça demande du travail parce que il y a des recueils de contes. On peut raconter nos vacances, on les a vécues, mais les mantras, on les a pas vécues. Puis il n'y a pas de recueil. Il faut vraiment inventer ce truc-là. Alors, ça demande beaucoup de travail, beaucoup plus de travail que n'importe quoi d'autre, ce qui fait que, qu'on soit conteur ou non, on part pas avec un gros avantage, à part l'art de savoir raconter, mais l'histoire, il faut quand même la créer. Puis c'est ça qui est difficile.
Éric, tu es donc le roi des menteurs pour la prochaine année. Est-ce que tu dois y retourner chaque année pour défendre ton titre? C'est quoi le futur de la menterie dans ton cas?
Ben, dans le cas du roi des rois, je suis là pour 10 ans en titre. Wow. Ouais, mais je vais retourner l'année prochaine pour défendre ma couronne parce que la couronne, elle est à chaque année. Alors donc, j'ai comme les deux titres. J'ai le roi des menteurs puis le roi des menteurs. Donc, je vais aller défendre ma couronne l'année prochaine. Et puis déjà, j'ai une bonne idée de qu'est-ce que je vais aller leur raconter un peu. Ouais.
Est-ce que ton association ici au Québec, es-tu en train de former une nouvelle génération de menteurs, de gens qui font des menteries? Est-ce que tu espères qu'il y ait une domination québécoise du monde de la menterie à partir de maintenant?
Ben, je pense que c'est bien parti. On a déjà une bonne cote, les Québécois, là-bas. Ils apprécient beaucoup ce qu'on fait. Ils apprécient notre humour. Puis oui, on n'est pas beaucoup de membres dans la confrérie en ce moment. On part. Puis les gens de Namur, en Belgique, m'ont dit on est parti de la même façon, très lentement. Puis ça a monté. Puis c'est devenu une œuvre caritative, leur affaire, en plus. Ils font des spectacles, amasser des fonds pour aider des gens. Moi, je vais aller dans cette direction-là aussi. Ça m'a beaucoup inspiré de dire « Hey, mentir pour aider, ça serait bien pour une fois. »
Éric, je reviens sur le sujet du compte, parce que tu es compteur professionnel. Il y a eu une pandémie. Hein? On a parlé à peu près ici dans les médias à toutes les industries possibles et impossibles pour savoir comment la pandémie les avait affectées. Et là, je peux regarder mes notes, mais je suis presque certain qu'on n'a pas demandé aux compteurs et aux compteuses comment ça s'est passé la pandémie puis comment ça revient maintenant. Ça n'a pas dû être facile dans le milieu du compte?
Bien, ça a été comme dans tous les domaines artistiques. Hein? Il n'y a plus de spectacle, zéro rien. Il a fallu s'adapter à faire du virtuel un peu. Alors, j'ai fait du virtuel. Moi, je compte dans les écoles, puis je compte pour les bibliothèques, les arts du compte. Je compte pour le grand public aussi. Donc, c'est assez varié mon truc. J'ai cet avantage-là. C'est sûr, quand on était à la maison, il y avait rien. Là, en 2020, tout a fermé, les écoles ont fermé, il n'y avait plus rien. Ça, j'avais rien. Mais quand c'est revenu, par contre, comme je compte beaucoup dans les écoles ne sortaient plus, ils ne faisaient plus de sorties là, avec les autobus, c'était trop compliqué. Donc, il fallait venir un artiste qui vient classe par classe. Ben moi, ça a déboulé, là, ça a fonctionné. Donc, j'ai pas manqué de travail par la suite. J'avais déjà beaucoup de clients avant. Ça fait longtemps que je fais ce métier-là. Donc, ça a bien été. Là. Moi, j'ai continué à rouler après. Puis là, les affaires vont bien. Puis suite à ce concours-là, ben je pense que ça va commencer à débouler encore plus parce que les gens trouvent ça très drôle. Hein? Ça fait rigoler quand on parle de concours de menterie puis de menteur professionnel. C'est très drôle.
Et ça fait du bien d'avoir un peu d'histoire rocambolesque, de truite à fourrure, de lac gelé, de traîneau de castor. Parce que Dieu sait que l'actualité n'est pas toujours réjouissante, mais ça fait du bien d'avoir des histoires comme celle-là. Éric Michaud, conteur professionnel et roi des menteurs officiellement de l'Académie des menteurs de Montcrambeau. Merci d'avoir été là. Félicitations pour la victoire. Une bonne nouvelle pour tous les menteurs du Québec.
Merci beaucoup, puis merci à tout le Québec de m'avoir supporté.
Merci beaucoup. C'est ce qui va conclure notre émission aujourd'hui. Ce n'est pas un mensonge, c'est malheureusement la vérité, celle-là. Je dois vous quitter pour la fin de semaine. Merci à toute l'équipe qui était avec moi, équipe de recherche, Charlotte Duquette qui était là, Jean-François Roy à la console. Je vous laisse entre les mains d'Alexandre Dubé. Nous, on se retrouve lundi, 9h.
Cube Radio.